quelle était la portion de la Bible que le plan de lecture de notre Église a proposé pour la semaine écoulée. Parce que, juste pour dire ceux qui sont peut-être nouveaux, qui ne sont pas au courant, au début de l'année, on nous a proposé, le pasteur Philippe Rottenbler a proposé un plan de lecture qui fait que si on le suit, en une année, on a lu tout le Nouveau Testament, et voilà. Donc, cette semaine, il y avait aussi des chapitres proposés. Qui est-ce qui se souvient ? Romains, voilà. Romains, il y a 5 chapitres, c'est 9, 10, 11, 12, 13, voilà. Et puis, il y a aussi un résumé, un commentaire de ces passages-là. Et si on prend le commentaire qui a été donné il y a environ 15 jours, en fait, qui faisait l'introduction de cette lettre aux Romains, alors je vous lis, il est dit « Dans la lettre aux Romains, la place d'Israël est centrale. Dans les chapitres 9 à 11, ceux de lundi, mardi, mercredi, Paul y aborde avec profondeur la question du peuple juif dans le plan du salut de Dieu. Israël, malgré son rejet initial de Christ, reste au cœur du projet divin. Paul affirme que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'un jour le salut atteindra aussi Israël dans son ensemble. » Voilà donc, Israël, c'est le thème que je retiens ce matin en prolongement de ce qu'on a lu et basé sur ce passage-là. Mais avant de se plonger dans ces textes, Israël, ce nom, d'où est-ce qu'il vient ? Alors peut-être vous le savez, mais je le rappelle, qu'il faut remonter à Jacob. Il avait un frère jumeau quand il est né et il a tenu juste après être né le talon de son frère. Et puis ça a inspiré les gens pour lui donner un nom à ce pauvre Jacob, parce que talon fait référence aussi au verbe talonner, et talonner, on dit akov en hébreu, et il a talonné, ou il talonne, Yaakov. Yaakov, c'est son nom en hébreu, qu'on dit Jacob. Hein. Malheureusement, avec ce nom, il y a encore un adjectif qui va aussi dans le même sens, et cet adjectif, c'est tordu. Et oui, parce que le talon, il est tordu, si vous voulez, à quelque part, et puis, alors, au sens propre et au sens figuré, ben, Jacob veut dire tordu. Voilà, Jacob, il est parti avec ça dans la vie. Il n'avait rien fait ni en bien ni en mal. Et beaucoup plus tard, dans sa vie, il s'est trouvé dans une situation extrêmement délicate où il a eu la peur de sa vie, peur pour sa vie, mais peur pour la vie de sa famille. Je n'entre pas dans les détails. Écoutez, je lis ce qui s'est passé. Donc lui, il a dit « Je vais chercher le secours vers Dieu, je vais aller lui demander sa bénédiction. » Et il s'est retiré, déterminé à passer la nuit devant son Dieu. Et voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. On lit en fait ça dans Genèse, chapitre 32, verset 25. « Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Alors il dit, donc l'homme, hein, dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Non, 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 je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. » Parce qu'il a réalisé que cet homme, c'est de là qu'il allait recevoir la bénédiction. Peut-être c'est le fils de l'homme, vous savez qui c'est, hein. Alors, cet homme lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Jacob, Yaakov, le tordu. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » Et c'est là qu'a été prononcé pour la première fois le mot Israël. Alors, Israël, je vous montre, c'est Israël en hébreu. C'est 5 consonnes, 5 lettres. Et puis en hébreu, facilement, on a 2 mots qui composent ce nom. Et ça se lit de droite à gauche, comme vous le savez. Et si on prend le deuxième mot, c'est El. El, ça veut dire Dieu, dans sa forme simple en hébreu. Ça, c'est El. Et puis alors, si on prend la première partie, ces trois lettres. Je vais cacher la première, hein, puisque ça va de droite à gauche, et on va prendre simplement ces deux, Shinresh, qui se prononce SR ici, et vous l'entendez dans Israël. Et Israël, ces deux lettres, c'est l'étymologie, ou ce qu'on appelle la racine partielle de lutter. Donc, d'où la réflexion, tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec Dieu. Oui, mais pourquoi on ne prendrait pas la petite lettre Yod? C'est le iota de Jésus, vous savez, qui dit « Laissez pas tomber les petites lettres, sinon vous serez petits dans le royaume de Dieu ». Et là, si on prend cette lettre-là, alors cette fois, on a une racine complète, pas partielle, c'est Yod Shinresh, et c'est Yachar, ça veut dire droit. Je vais vous citer un verset où, dans Deutéronome 32, 4, c'est dit que Dieu, c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit, Yachar. Ça, il est évident que ça veut dire droit. Si on reprend Jacob, qui est quelqu'un qui avait conscience de ce que représente la bénédiction, il avait eu la chance, quelques années avant, quand il était plus jeune, d'avoir la bénédiction de son père. Vous allez dire, ah oui, 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 on sait la bénédiction qu'il a volée parce que son père était malvoyant, il s'est fait passer pour son frère. Je ne parle pas de cette bénédiction-là, parce que quelques semaines après, on fait plus tellement attention, il a dû quitter la maison et là, son père l'a béni, il savait que c'était Jacob. Et là, sa bénédiction, c'est deux choses. Un, c'est une descendance. Deux, c'est une terre. Et c'est exactement la promesse qu'Abraham avait reçue, le grand-père, qui est transmise. Et cette descendance, c'est un peuple qui s'appelle Israël. Et cette terre, c'est un pays qui s'appelle Israël. Et ça, il y a 4000 ans que ça a été dit. Il y a 4000 ans que ça a été écrit avec 5 lettres. Et aujourd'hui, il y a environ 80 ans, il y a un pays qui est revenu à la vie qui s'appelle Israël. Les habitants, qui sont pour majoritairement des Juifs, s'appellent Israël. Et donc, dans ce phénomène-là, il y a quelque chose d'étonnant. C'est un signe, parce que je pense que c'est unique. Parce qu'aujourd'hui, Israël s'écrit toujours avec les mêmes 5 lettres. Vous dites, si vous voyez à la télévision tout d'un coup un peu de l'hébreu, ben, ça vous fait une belle jambe. Mais vous allez reconnaître la petite lettre qui est à droite. Puis vous allez reconnaître la grande lettre, L, l'Amed. Il n'y a que ces deux lettres qui se distinguent comme ça. Tout d'un coup, vous allez voir, ah, je reconnais, j'arrive à lire Israël. Et ça, c'est un signe. Et dans le langage biblique, un signe, c'est un miracle, c'est un signe. Un signe que quoi? Un signe que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Le signe que cette Bible qui parle de cette histoire d'Israël, eh bien, elle est fiable. Voilà, ça c'était pour rappeler ce qu'est Israël. Et maintenant, on va dans Romains 9. Hein. Je vais lire le début. Je cherche mes notes. Alors, ça, donc, c'est Paul hein, qui écrit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je dis la vérité. Bon, on sait qu'il dit la vérité, mais il le répète. Hein. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Les Israélites, je dis dans le langage biblique, c'est les enfants d'Israël. Il y a le mot Israël. Hein. Ils se sentent très Israël. Hein. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Il est triste, Paul. Il est triste avec Israël parce que il aurait espéré qu'il y ait beaucoup plus des membres de cette communauté qui se tournent vers Jésus, qui reconnaissent le Messie, ou bien qu'il y ait plus de juifs, qu'il y ait une révélation, comme lui l'a eu d'ailleurs, hein, Paul. Et donc, il aime ce peuple. Il l'aime. C'est pas pour rien qu'il dit trois fois la vérité, je vous promets, c'est vrai. Puis, peut-être on se dit, ouais, mais bon, il exagère quand même un petit peu, parce que si vous regardez, il dit, j'aimerais être moi-même maudit. On ne dit pas ça. J'aimerais être séparé de Christ. Non, mais un chrétien, il ne dit pas ça. Et lui, il le dit. Puis on a envie d'y dire, ouais, mais souviens-toi, tu t'appelles Paul aujourd'hui. Parce que si on regarde l'histoire de Paul, hein, au début, dans le livre des Actes, il y a un autre nom qui est donné, c'est Saul. Quand il est appelé par Dieu, par Jésus, Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Donc Saul, en fait, c'est Shaoul, hein, en hébreu. Alors Shaoul, comme prénom, il n'y a pas plus juif que Shaoul, hein. Il s'appelait Shaoul. Et puis maintenant, Paul, mais il n'y a pas moins juif que Paul. Paul, c'est gréco-romain. Qu'est-ce qu'il exagère pas un petit peu quand même, hein? Et quand j'étais à Berne, je ne sais plus si c'est au mois d'avril ou au mois de mars, il y a eu une grande manifestation sur la place fédérale avec des chrétiens, centaines ou milliers de chrétiens, pour montrer de l'affection, de la solidarité envers Israël. Et là, il y avait l'ambassadrice d'Israël qui était là, il y avait aussi le rabbin de Berne et Bienne qui était là. Et quelqu'un a pris le micro, je n'ai pas vu qui, priait en français, il a dit qu'il y ait beaucoup de Sauls qui deviennent des Pauls. Hein? Il veut dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Et vous, je ne sais pas ce que vous comprenez si on dit cette parole. Mais c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment, un peu comme si on disait, voilà, tu t'appelles Shaoul, et puis maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es chrétien, tu vas t'appeler Paul. Mais il n'y a pas ça dans la Bible. Si on lit dans les Actes, qu'est-ce qu'on réalise? Qu'en fait, Shaoul, il s'est toujours appelé Shaoul, même des années, pour ne pas dire des dizaines d'années après qu'il ait donné sa vie au Seigneur. À un moment donné, l'Église était réunie, l'Esprit parle et dit à l'Église, mettez-moi Saul à part pour aller apporter la bonne nouvelle. Et il part, il arrive à Chypre, et là, l'auteur des Actes, hein, où on lit cette histoire, il dit, oui, Saül, qu'on appelle aussi Paul. Il a deux noms. En fait, il est binational. Il est romain, il est né à Tarse, c'est considéré comme romain par sa naissance, mais il est issu quand même d'Israël, de Jacob, et il a fait ses études rabbiniques à Jérusalem. C'est bien ça. Et d'ailleurs, un jour, il s'est trouvé devant le tribunal, il s'est retrouvé devant le tribunal juif parce qu'il professait que Jésus est le Messie et ils n'étaient pas contents. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Paul, pour prendre sa défense? Il dit, je suis pharisien. Mais non, mais Paul, tu n'es pas pharisien, tu étais pharisien. Il dit, je suis pharisien, parce que pharisien, ce n'est pas un vilain mot. Le problème, c'est quand on est pharisien hypocrite, ça ne va pas. Et il n'y a pas que les pharisiens hypocrites hein, où ça ne va pas. Voilà, donc c'est comme s'il dit, je suis juif. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il n'est pas juif. D'ailleurs, ça me fait penser à une femme chrétienne, juive, ici à Bienne. On va lui donner un nom d'emprunt, Sarah. Ce n'est pas Sarah, c'est une Sarah. C'est parce que c'est un nom juif, c'est pour ça que j'ai ça. Et puis le pasteur lui dit un jour, « Mais Sarah, tu n'es plus juive, tu es chrétienne. » Et il n'a pas réalisé, mais ça lui a transpercé le cœur à cette pauvre femme juive, chrétienne. Elle en a pleuré, elle a été marquée, parce qu'on ne réalise pas, mais son amour qu'elle a pour son peuple, d'ailleurs les antisémites, ils ne font pas la différence, hein. Un acte antisémite, elle en a subi, ses enfants aussi. Voilà, donc simplement, j'ai pris ce texte et j'ai pensé dire, justement, rappeler que Paul se sent profondément juif. Maintenant, si on lit le verset suivant, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Alors, ceux qui ont lu cette phrase lundi, on en pense quoi, hein? Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Qu'est-ce que les chrétiens qui ont lu ça en ont pensé? Qu'est-ce que la première église plus tard en a pensé de versets de ce type-là? Il y a peut-être un événement dont il faut se souvenir, même deux. Le premier, c'est qu'environ 10 ans ou 12 ans après que cette lettre ait été écrite, les Romains ont détruit le temple. Le temple, c'est le cœur de, c'est le cœur d'Israël, hein. Et le temple, c'était ce bâtiment dont Jésus, il disait, la maison de mon Père. Et ce temple, ça a été un malheur, cette destruction, pour tous les Juifs, mais aussi les Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus, parce qu'ils allaient tous les jours au temple, pour ceux qui étaient à Jérusalem. Donc, le temple n'existe plus, le cœur n'est plus là. 50 ans plus tard, donc ça c'est déjà d'autres générations, les Romains ont détruit, plus que ça, ils ont détruit tout Jérusalem. Et ils n'ont pas seulement détruit, ils ont tué tous les Juifs qu'ils ont pu, et puis ils ont expulsé tous les Juifs qu'ils ont pu. C'était un 7 octobre, comme aurait rêvé le Hamas. Voilà ce qui s'est passé. Et puis, là, les Romains, pour appuyer la chose, pour bien signifier ce que ça dit, parce qu'en fait, il y avait un conflit, hein, les Juifs n'aimaient pas les Romains, c'est pour ça que ça finit comme ça. Et les Romains ont dit, bon, on va changer le nom, ça s'appelait la Judée. On disait la Judée, ils ont dit, on ne va plus appeler ça la Judée, on va l'appeler Palestine. Pourquoi Palestine ? Bien, c'était en référence à un peuple qui avait existé, qui n'existait plus, qui s'appelait les Philistins. Alors, Philistins, Palestine, c'est parce qu'on a la prononciation hébraïque puis la prononciation gréco-romaine, hein, mais c'est la même chose. On dit, on nomme Palestine, comme ça vous comprendrez que votre destin sera comme celui des Palestiniens. Les Palestiniens étaient venus d'Europe, se sont établis momentanément sur la côte méditerranéenne, ont disparu, il n'y a plus de traces de Philistins. Voilà, ça, c'est votre avenir. C'était ça la réflexion. Et puis, maintenant, il y a l'Église. L'Église, heureusement, se développait. Il y avait toujours plus de membres, pas à Jérusalem, mais ailleurs. Et dans cette église, il y a eu de moins en moins de juifs de souche et de plus en plus de grecs, mais de grecs dans le sens large du terme, hein. Et puis, eux ont assisté ça, ont vu qu'Israël n'existe plus, ils ont la Bible, et puis ils font leur réflexion parce qu'il y a des personnages importants qui savent écrire, qui savent réfléchir. Et puis, je vous cite 4 de ces citations, qui c'est le 1er, 2e, 3e, 4e siècle. Hein. Alors, Irénée de Lyon, il dit « Dieu a transféré l'alliance à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à ceux qui, par la foi, suivent l'appel du Christ. » Autrement dit, il dit « Il y a un transfert de Israël, dont je vous parlais, à Israël, à l'Église. » 2. Tertullien. Car il n'est pas d'autre nation que celle que le Christ a rendue à ses disciples qui soit appelée à remplacer l'ancien peuple. Ce n'est pas très clair le texte comme je vous le lis ou comme il est écrit, mais autrement dit, il y a maintenant un remplacement. L'Église remplace Israël. C'est ce qu'on appelle la théorie du remplacement. Il n'y avait plus d'Israël, tout parlait dans ce sens-là. Origène, nous aussi, nous sommes Israël selon l'Esprit. Si les Juifs ne croient pas donc en Jésus, ils cessent d'être le peuple de Dieu. Terminé. Et puis finalement, Chrysostome, les Juifs étaient les fils de Dieu, mais ils sont devenus les fils du diable. Voilà, ça c'était l'ambiance des premiers siècles. Tant que c'est des théories, le problème c'est que ça alimentait ce qu'on appelle l'antisémitisme chrétien, qui est passé aux actes et qui a méprisé les Juifs qui survivaient. Il y a toute une histoire, on ne va pas la passer en revue, mais voilà. Mais maintenant, nous, on revient à ce verset, parce qu'on l'a quand même lu. C'est un petit peu mystère, hein. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Alors, je vous ai fait de l'hébreu, je vous fais du grec, puisque le Nouveau Testament est en grec. Je fais simplement, je vous dis mot à mot ce verset. C'est « urak », ça veut dire « pas, en effet ». Pantes hoi ex Israël, tous les issus d'Israël, hautoi Israël, eux Israël. Il n'y a pas de verbe, c'est une verbe, c'est courant en grec et en hébreu. Pas, alors je vous le dis, pas en effet, tout, on va dire comme ça, pas en effet tous ceux issus pas en effet tous ceux issus d'Israël, eux Israël. Alors voilà. On n'en a pas compris beaucoup plus, mais j'allais dire que c'est simple. Enfin, pour moi, il suffit d'aller à la fin du chapitre 9 et on trouve le verset 24 qui dit « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, ex-Judaïon, on retrouve ce « ex » d'avant, hein, mais encore d'entre les non-Juifs, ex-Esnon, dont hors des nations ». Si vous voulez, c'est ça qui ressort. C'est que Israël, issu de Jacob, c'est Israël, mais pas que. Et ça, c'est nouveau. Il y a des gens qui sortent des nations qui viennent alimenter cet Israël qui grandit. Et ça, pour nous, ça ne pose pas de problème, mais pour les premiers chrétiens qui étaient tous juifs, ça, ils ne l'avaient pas vu venir. Ils ne l'avaient pas compris. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, ils se sont retrouvés. Ils ont vraiment... Parce que pratiquement, ces étrangers venaient quand même dans l'église, se réjouissaient. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, ils deviennent juifs. Donc, il faut qu'ils soient circoncis, il faut qu'ils soient ceci, cela. C'était une discussion. Et ça m'a toujours étonné... tout d'un coup, le pasteur, qui s'appelait Jacques, hein, il lit dans Amos, dans l'Ancien Testament, et qu'est-ce qu'il lit? Il lit « Alors, donc on pourrait dire les Juifs ou Israël, alors ils posséderont le reste des hommes et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. » Je vous dis franchement, moi quand je lis ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, sur cette base-là, révélation. Hier, j'ai essayé un petit peu d'aller gratter l'hébreu, parce que c'est dans l'hébreu qu'on trouve les solutions. Je le pressens. Je pressens qu'ils ont exactement compris cette histoire de ce qu'on rejoint Israël. Parce que là, il est mis, ils posséderont le reste d'Édom. Posséderont, c'est plutôt, ils hériteront, comme s'il y a des gens qui viennent enrichir. Et puis, Édom, les nations... Ben, c'est les autres. Hein. Donc, ce n'est pas très important que nous, on comprenne. Ce qui est important, c'est qu'eux aient compris. Et curieusement, ça les a tous mis d'accord. C'est bon, les non-juifs, appelons-les comme ça, on ne doit pas leur imposer, fais ci, fais ça, etc. Il faut les accueillir et ils viennent enrichir cet Israël. Et puis, ce qui m'a aussi frappé, eux ont eu cette révélation, c'est que le 15 mai 1948, quand Israël, le premier jour, existe, pas parce qu'ils ont conquis des territoires, pas parce qu'ils ont fait la guerre, pas parce qu'ils ont volé des terres, rien de tout ça. C'est parce que l'ONU, enfin je ne veux pas dire que c'est l'ONU, parce que ça remonte déjà même à 10-20 ans en arrière, mais bref, donc la communauté internationale a reconnu que ce petit bout de terrain de rien du tout, c'est pour Israël. Il leur avait promis beaucoup plus, mais Israël a dit merci. On tend la main de la paix à tous nos voisins. Ce jour-là, le 15 mai 1948, il y a 5 nations aux alentours qui les attaquent. Et voilà, c'est ça l'origine. Dans les synagogues, ce jour-là, les synagogues donc, où on lit la Torah, cet Ancien Testament, non pas comme moi qui dis « tiens, aujourd'hui je prends ça », non, où on lit aussi selon un plan de lecture. Et le plan de lecture, il tombe sur ce passage-là, d'Amos 9. Exactement, un petit peu plus avant, ça commence au verset 11. Et le même passage qui a été une révélation pour les chrétiens juifs, pour voir les non-juifs, c'est eux, ce même passage est lu, puis alors là, c'est clair. Hein. Je vous lis un peu le verset 14. C'est Dieu qui parle, « Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées, ils habiteront, ils planteront des vignes, etc. Et ça, c'est la création d'un État d'Israël. Parce que quand on construit des villes, et puis des vignes et tout ça, voilà. Et ce jour-là, ils lisent ça. Et puis, moi, ma réflexion, alors c'est la mienne, je vous la partage, je dis, mais nous, les non-juifs, chrétiens, on a la révélation que Israël, ils sont toujours là. On l'avait peut-être perdu de vue, on avait d'autres soucis, et ce même Amos 9 est une révélation que Dieu est là. Voilà. Alors, tout ça, c'est comparé au fait par Paul, on le verra dans le chapitre 11, je le lirai, mais je le dis déjà. Donc, il dit, mais finalement, comment cet Israël avec des juifs, tout d'un coup viennent avec des non-juifs, ben voilà l'image. L'image, c'est une greffe. Si on prend un pommier avec des pommes gala, qui est considéré, sauf erreur, j'ai vu qu'une fois, mais je n'ai pas contrôlé, c'est un arbre costaud qui résiste à la sécheresse, etc. Si vous faites une entaille et vous mettez un petit rameau d'un pommier golden, qui est plus faible, mais voilà, il y en a qui préfèrent les golden. Bon, on ne va pas parler de ça. Hein. Mais on l'attache, on le ficelle. Eh bien, tout d'un coup, cette petite branche va prendre la sève dans dans le tronc des galas. Alors, oublions peut-être la comparaison, mais Paul, c'est-à-dire on n'oublie pas la comparaison, mais ici, il est surtout insisté pour dire c'est un olivier qui est bon, auquel on greffe un olivier sauvage, des branches sauvages. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tirer la sève de cet olivier. Et puis moi, je me disais, oui, c'est vrai, quand vous ouvrez la Bible, vous lisez, par exemple, « L'Éternel te garde ». Waouh, super, il me garde. Vous le ressentez, c'est vrai. Vous lisez la suite, « Il ne dort pas, ni ne sommeille, celui qui garde Israël. » Hey, c'était pas pour toi, c'était pour Israël. Tu dis, non, c'est pour moi. Mais pourquoi? Parce que nous sommes greffés. Et en fait, on tire tout ça, de toutes ces promesses pour Israël, c'est pour nous. Alors, ça c'est Romains 11, hein. Je vais le lire. Je vais lire parce que c'est important, pas seulement le phénomène, mais la mise en garde que Paul dit. Et puis là, je dirais, c'est pas trop difficile à comprendre ce qu'il veut dire. Alors, c'est le chapitre 11, verset 17, je crois. Il dit, mais si quelques-unes des branches, il parle de cet olivier, hein, quelques-unes des branches ont été coupées, donc des gens qui ont vraiment rejeté ces promesses, voilà, eh bien, si quelques-unes ont été coupées, et que si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, peut-être qu'on peut souligner que pendant longtemps, ça a été traduit à la place. Et puis, en fait, en grec, c'est « en » qui veut dire « en », et c'est corrigé ici. C'est mis « greffé parmi les branches restantes. Tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. » C'est une mise en garde. Ne te vante pas. C'est un impératif. Hein. « Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Hein. » Souvent, les gens disent, oui, Israël, ils peuvent devenir chrétiens comme nous. Et puis, souviens-toi, c'est eux qui te portent. Hein. Tu diras, alors, des branches ont été coupées afin que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car Dieu n'a pas épargné, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. On ne peut pas prendre que les promesses. Puis quand on lit, oui, Israël, oh, pas ceux-ci, ce qui sont terribles. Ah, ils m'aiment. On prend tout. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tout s'adresse à nous, mais on doit réfléchir à tout. Voilà, on est greffé là-dessus. Et puis, je pense à un homme qui s'appelle, je retrouve son nom, c'est un psychanalyste, hein, qui s'appelle Daniel Siboni, psychanalyste français. Il y a quelques mois, il s'est retrouvé à Rome, et dans un hôtel, et dans l'hôtel, il y avait une Bible, j'imagine une grosse Bible en italien, parce qu'ils sont quand même plus religieux, comme tu as dit, hein, vous êtes catholique. Vous êtes, hein. Et là, la Bible était ouverte, Ésaïe 1. Et puis, ce psychanalyste, Daniel Siboni, qui est juif, hein, il voit ça. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve dans Ésaïe 1 ? J'ai pris un ou deux versets, là. En effet, parle, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. C'est écrit. Pourquoi quelqu'un l'a ouvert à cet endroit-là ? Moi, je ne sais pas. Mais oui, on trouve des textes comme ça. Seulement, lui, ce Daniel, il a dit non. On va tourner les pages. Il l'a pris au chapitre 40. Il a regardé que personne ne le voit et il est parti. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. C'est bon, c'est fait. Alors bien sûr, il y a toujours Dieu qui dit « Ah non, mais voilà, c'est pas fait. » Mais il faut savoir qu'il y a un temps où c'est fini. On ne peut pas toujours aller prendre des prophéties qui sont pour 3000 ans en arrière ou 2000 ans et puis les appliquer. Il faut aussi, une fois, tourner la page. Et moi, je me souviens de ma prof d'hébreu. C'était juste après le 7 octobre. Elle était à Tel Aviv. Il faut savoir qu'en Israël, ils ne sont pas tous religieux. Il y a peut-être 20% des religieux. Les autres, il y a beaucoup des gens athées. Ils vous diront, on ne croit pas en Dieu. Elle me disait, mais tu sais, Jean-Paul, dans la rue, à Tel Aviv, mais c'était peu après le 7 octobre, tous les Israéliens ont le nom de Dieu dans la bouche. Ils parlent de Dieu. C'est un peuple qui est très proche de Dieu. Je voyais même un YouTuber qui dit « je ne suis pas croyant », qui habite en Israël, mais qui est amoureux de la langue hébraïque. Qu'est-ce qu'il prend comme exemple ? Israël. Il dit « regardez, par exemple, Israël ». Yachar, elle, la droiture, puis Dieu. Moi, j'ai envie d'être droit comme Dieu. Moi ça m'émeut. Il n'est pas croyant, tu parles. Voilà. Alors bon, j'arrête. Je pense que il y a encore d'autres choses, hein, j'entends. Vous l'avez lu aussi, peut-être, ce chapitre 11. Si vous voulez un résumé, vous lisez le chapitre 11. Vous pouvez lire les résumés de Philippe, hein. Il a résumé, et puis il donne pour nous aujourd'hui. Peut-être que vous dites, oui, bon, Jean-Paul, ça c'est, on sait, tu aimes Israël, j'ai même le petit truc là, c'est ton truc, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, et puis que, suivant les époques, suivant les moments, on ne peut pas tout savoir, s'intéresser à tout, il y a comme des choses qui sont soulignées dans nos vies. Puis on va dire, ben oui, on sait que toi, c'est Israël. Et puis, j'aimerais vous dire, pas que moi. C'est-à-dire, moi, c'est un héritage que j'ai. C'est pas juste... L'héritage, c'est de mon père. Ça, c'est une chose. Mais l'héritage aussi du premier pasteur qu'on a eu dans cette église, qui s'appelle Calam. Ce pasteur Calam, quand il était en France, il était pasteur. Il a accueilli des Juifs qu'il a sauvés. Et comme ça, la Gestapo, ou je ne sais pas, la police n'arrivait pas à les attraper. Mais un jour, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Il dit, c'est vous qui cachez les Juifs ? Non. Il ne sait pas pourquoi, il dit un mensonge. Non. Oh, ah bon, on avait cru, ils sont partis. S'il avait dit oui, il n'aurait pas été pasteur chez nous, parce que c'était un piège. Donc, cet homme-là, dans les années 60-67, quand il est devenu pasteur chez nous, il était pasteur à la retraite, mais il était pasteur à temps partiel, quand il ouvrait sa Bible et puis qu'on parlait d'Israël, ceux-là, là-bas, il était ému. Et il avait un amour pour Israël, comme Paul, si on veut. Hein. Et puis, à part ça, il y avait aussi le pasteur Hunziker. Le pasteur Hunziker, j'allais dire, j'ai une image de lui, parce que quand on a inauguré cette salle, il était assis là, peut-être, où il y a Anne, mais on était tourné autrement. À côté de lui, il y avait ce pasteur Calam. Puis derrière, il y avait le papa de Sylvie, ouais. Juste pour dire. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été très présent. Et ce Hunziker, j'étais cette année aussi, Marche de la vie à Genève, pour Israël, un défilé. Et puis là, on s'est trouvé, je ne sais pas si c'est le Palais Wilson ou un hôtel qui a été important dans l'histoire d'Israël. Il y avait aussi le représentant d'Israël à l'ONU qui était présent. Et puis là, dans les discours, ils ont mentionné quelques personnes à Genève qui ont été très importantes pour l'État d'Israël. Et ils ont mentionné Henri Dunant, par exemple. Et ils ont mentionné Hunziker. Ah, c'est dommage, je filme un peu, je n'ai pas filmé cette séquence-là. Donc Hunziker, c'était un ami d'Israël. Et c'est le fondateur de l'église de Genève, Réveil, et responsable de l'Union à l'époque. Et lui, il nous distribuait, à nous les jeunes, on avait des camps de jeunes, ils venaient, un petit machin jaune, c'était écrit « Antisionisme égale antisémitisme ». On prenait ça, ouais, super, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne suis pas antisémite !» Parce qu'antisémite, c'est détester les Juifs. Mais non. Mais on n'aime pas Israël, on n'aime pas sa politique, on n'aime pas ce qu'ils font. Et ça, on entre dans l'antisionisme. Et lui, il nous disait, antisionisme, là, c'est de l'antisémitisme. Donc, pour moi, c'est aussi un héritage que j'ai de ce monsieur Hunziker. Il y en a d'autres, mais je pense aussi au pasteur Schwertzmann, dont vous avez entendu parler, puisque c'est avec lui qu'il y a eu le développement le plus faramineux de l'église ici de Réveil de Bienne. Et quand il est parti, il a fait comme un testament, si on veut, il est parti, pas parce qu'il décédait, mais parce qu'il allait à Lausanne. Mais pour nous, il nous laisse un message. Il y avait plusieurs points, pour dire vrai. Mais un de ces points, c'est tout simple. Enfin, il l'a développé. Mais dans la trace écrite que j'ai trouvée, c'était dit, ne perdez pas la vision du réveil d'Israël. Ne perdez pas la vision du réveil d'Israël. Voilà. Donc, pour dire, moi, ce que je vous dis, ce n'est pas seulement mon truc, c'est un héritage que j'ai de tous ces gens qui m'ont marqué. Et puis, pour les membres, ici, nous avons des statuts, vous les avez lus, peut-être que vous n'avez pas lu, c'est qu'il y a aussi des annexes. Et dans l'annexe, il y a un annexe qui s'appelle « Aperçu du fonctionnement de l'EER ». Dans ce fonctionnement, plus bas, il est écrit « Relations avec les autres églises », pour expliquer que nous, on n'est pas en train de se dire « Nous, on est l'église, puis les autres, vous êtes des mimis ». Ça veut dire qu'on reconnaît les autres églises. Et là-dedans, il y a une phrase « L'amour pour Israël et le peuple juif est une particularité de l'EER ». Je ne sais pas très bien tout ce qu'il y a derrière cette phrase, mais j'aime l'amour pour Israël. Et croyez-moi, c'est l'amour pour Israël, l'État, hein, pas le je sais pas où. Voilà. Alors, je conclue. Pas en rappelant tous les points, il y en a peut-être un peu, peut-être c'est un peu brouillon, mais comme j'ai dit, vous pouvez relire Romains 11, vous pouvez voir ces trucs, peut-être, je sais pas si c'est enregistré. Mais je dirais deux mots pour conclure. Et bien entendu, je vous l'ai dit en hébreu. Parce que c'est beaucoup plus court en français, ça fait des phrases, en hébreu, c'est des slogans. C'est « amer ami ». Alors, « am », c'est le peuple. Quand vous mettez ce « r » juste derrière, ça reste toujours un mot, « amer », c'est-à-dire « peuple à toi, ton peuple ».« Am »,« i »,« i », c'est « à moi ».« Am i », mon peuple. Quand Dieu, vous lisez, Dieu il dit « mon peuple », si vous lisez en hébreu, vous direz « ami ». Ça, c'est Ruth la Moabite qui a dit ça à sa belle-mère. Moi, je ne peux pas le dire à ma belle-mère, mais je vais le dire. Je dis à Dieu et je le dis aux amis juifs. « Amer, ami ». Et j'ajoute « Amen ».